Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous ne sommes pas seuls, notre éditorialiste nous a rejoint, Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
Éditorialiste parce que vous allez encore nous pousser un coup de gueule. Vous êtes le reste de la journée dirigeant de SD Conseil et Formation et avec vous, on va parler aujourd'hui fiscalité et des loyers. C'est un appel à l'action que vous allez faire sur ce plateau, cher Stéphane.
Oui, un appel à l'action parce que effectivement les loyers en nu sont traités de la pire des façons. On atteint des niveaux stratosphériques, notamment depuis l'augmentation de la CSG, des prélèvements sociaux, donc en 2018. Donc, ils sont passés à 17,2%, puisque les revenus fonciers, une fois qu'on a déduit ces charges, le cas échéant, ces intérêts d'emprunt, ça vient dans votre revenu imposable global. Donc ça va dépendre, votre imposition va dépendre de votre tranche marginale d'imposition, mais va supporter, vos revenus fonciers vont supporter votre tranche marginale d'imposition
plus
les prélèvements sociaux à 17,2. Ce qui fait que même pour la première tranche d'imposition à 11%, donc vous êtes tout de suite à 11 plus 17,2, donc 28,2%, donc un petit peu en dessous de la flat tax. Vous savez que certains militent notamment pour que les revenus fonciers soit comme les revenus financiers en général.
Donc, ça n'arrivera pas ça,
à la flat tax.
A priori,
bon, il y a assez peu.
Sinon, on n'aurait pas eu la création de l'impôt sur la fortune immobilière.
Il y a assez peu de chances. Il y a assez peu de chances. Effectivement, on doit bien effectivement s'en rendre compte aujourd'hui. Mais c'est vrai que dès la deuxième tranche, là, pour le coup, vous êtes bien au-delà de la flat tax, puisque dès la deuxième tranche à 30% de TMI plus 17,2, vous êtes à 47,2% pour pas dire la moitié, à 41%. Vous êtes à 17 plus 17,2, donc 58,2 pour pas dire 60%. Et alors, on atteint des sommets avec la dernière tranche à 45 plus 17,2, on est à 62,2 plus la taxe foncière. Qui est déductible, mais il en reste une partie.
Et hors IFI.
Plus l'IFI,
Stéphane, non mais je vous interromps. Est-ce qu'on a une idée? Parce que c'est vrai que le profil du propriétaire bailleur, il est difficile à faire. C'est-à-dire que dans l'imaginaire populaire, le propriétaire bailleur, c'est un multipropriétaire qui gagne très très bien sa vie. Enfin voilà. On sait que c'est pas forcément tout le temps le cas.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'on a quand même un ordre d'idée du taux marginal d'imposition en moyenne des propriétaires bailleurs en France?
Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les gens qui arrivent à faire, après la résidence principale, à faire un investissement locatif, ils sont bien souvent à 30% de tranche marginale d'imposition.
On est plutôt autour de 30%.
On est plutôt autour de 30%. De la même façon, les retraités, puisqu'il y a beaucoup de retraités qui sont effectivement bailleurs, les retraités n'ont pas une grosse retraite, c'est sûr, mais comme ils n'ont plus d'enfants, donc ils sont un ou deux dans le foyer fiscal, donc ils sont vite, effectivement, pareil, à 30%
de TMI. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, bon an, mal an, si je prends vos calculs, on est autour de 47% de fiscalité en moyenne pour un propriétaire bailleur sur ses revenus locatifs.
Tout à fait.
Et c'est là où vous nous dites qu'il faut agir.
Oui, parce qu'il y a des solutions quand même, malgré tout. Il y a des solutions donc pour pouvoir baisser ses revenus fonciers, enfin la fiscalité de ses revenus fonciers. Il y a des solutions qui peuvent paraître simples, qui ne coûtent rien, et notamment la première qui est d'organiser en fin de compte un transfert de vos loyers. Vous êtes surfiscalisé sur vos loyers, vous organisez un transfert de vos loyers sur vos enfants, qui par définition, si par exemple ils sont étudiants, ils finissent leurs études, ils vont démarrer dans la vie active, souvent ils n'ont pas de revenus, donc ça pourra constituer ces loyers que vous leur transférez, ça pourra constituer l'essentiel, voire la totalité de leurs revenus, donc auquel cas ils ne seront pas imposés.
Ça veut dire quoi, c'est une donation en fait?
Oui.
Donne les loyers que je suis censé percevoir, moi Marie, à mes enfants.
Le terme technique, c'est donation temporaire d'usufruit.
Parce qu'effectivement, ça veut dire quoi, du coup ?
Parce qu'effectivement, c'est temporaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider de transférer les loyers sur vos enfants pour les aider quand ils finissent leurs études, par exemple, ou lorsqu'ils sont étudiants. Donc, vous leur transférez les loyers sur la durée que vous décidez, pendant 4, 5, 6 ans. Et à ce moment-là, effectivement, vous n'avez plus, vous, vos loyers, mais c'est particulièrement intéressant lorsque vous aidez vos enfants. Parce que bien souvent, vos enfants étudiants, c'est vous qui allez les aider pour qu'ils puissent manger, se loger,
mais du
etc.
Du coup, ça veut dire quoi techniquement, Stéphane ? Parce que ça m'intéresse. De fait,
oui, bien sûr.
Même si je ne suis pas propriétaire bailleur, mais qui sait un jour peut-être.
Mais ça viendra,
Mes enfants vont grandir. Ça veut dire concrètement que je leur verse l'argent sur le compte bancaire, j'ai aucune.
Ça veut dire que vous organisez tout simplement avec un notaire, parce que c'est quand même un peu officiel, ce transfert de loyer, donc c'est inscrit à un moment donné, ils ont l'usufruit des loyers pour une durée, l'usufruit des loyers, donc pour une durée définie de 4-5 ans, comme vous décidez. Parce que, effectivement, au bout d'un moment, bah, vous serez bien content de voir revenir ces loyers pour vous, notamment lorsque vous-même, vous allez être à la retraite, etc. Donc, vous leur donnez temporairement les loyers. Mais surtout, l'avantage pour vous, c'est que pendant cette période, bah, vous les aiderez plus, vous les aiderez moins, plutôt que de leur donner 700 ou 800 euros sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé chaque mois.
Les aide autrement.
Vous leur transférez les loyers, voilà, vous les aidez autrement.
Mais cet argent, surtout, il doit être déclaré, Stéphane.
Oui, il est déclaré.
Les enfants doivent le déclarer.
Alors, vos enfants les déclarent. Alors, petite, quand même, subtilité, il faut qu'ils soient, bien entendu, sortis de votre foyer fiscal.
Oui, oui.
Il faut les sortir de votre foyer fiscal et ensuite, eux seront imposés sur les loyers, mais s'ils n'ont que ça comme revenu, ils n'auront que les prélèvements sociaux. Ça ne va pas du tout rentrer dans leur imposition.
Mais les 17-2 ne disparaissent jamais.
Non, les 17-2, de toute façon, vos enfants les paieront, etc. Donc c'est quand même très intéressant et ça ne coûte quasiment rien, puisque, alors ça a quand même un coût, le coût d'une donation, dès qu'on donne quelque chose, il faut payer. Donc le coût, c'est 23% de la valeur de la pleine propriété. Donc si vous donnez un bien d'une valeur, enfin, l'usufruit d'un bien d'une valeur de 100 000 euros, ça va coûter 23 000 euros, 200 000 euros, 46 000 euros.
Ah ouais,
mais ça rentre, oui, mais ça rentre dans les 100 000 euros que vous pouvez donner tous les 15 ans par parent,
mais
par enfant.
Coup,
donc en fait, ça
ne
coûte rien.
Donc ça peut être zéro.
C'est zéro.
Okay,
c'est juste les émoluments du notaire, les quelques centaines d'euros de frais du notaire pour les inscriptions, etc. Ce transfert d'usufruit temporaire.
On réfléchit à comment agir sur la fiscalité de vos loyers. La première solution que Stéphane nous propose, c'est un transfert de loyer aux enfants. Techniquement, juridiquement, ça s'appelle une donation temporaire d'usufruit. On s'engage pour une durée prédéfinie à transférer les loyers qu'on reçoit à ses enfants. Il faut que vos enfants soient sortis de votre régime
de votre foyer fiscal.
Et ça coûte donc pas une paille, mais ça coûte une somme,
23% de la pleine
qui
propriété.
Peut être déduite de cette donation tous les 100 ans.
Ça mange un peu vos 100 000 euros. Et ça sort de l'IFI, puisque c'est l'usufruitier, si vous êtes redevable de l'IFI, c'est l'usufruitier qui paye l'IFI. Et donc on imagine que votre enfant n'a pas... On imagine que votre enfant a moins d'1,3 million de patrimoine immobilier, donc ce patrimoine-là, pendant la donation temporaire du fruit, sort en plus de l'IFI. Cerise sur,
voilà, première
sur le
solution concrète. Vous venez avec une deuxième solution qui va plaire à Marie, faire des travaux.
Voilà, alors la deuxième solution qui est bien connue...
Mais il dit ça un peu coinsouille quand même.
Non, bon, pourquoi?
Allez-y, déroulez.
La deuxième solution qui est bien connue, c'est de faire des travaux. Puisque les travaux, attention, pas d'agrandissement, pas de reconstruction, mais tout ce qui est amélioration, rénovation, isolation, l'électricité, la peinture, etc. Donc tout ça rentre dans les travaux déductibles. Donc quand vous allez faire des travaux sur votre bien, il ne faut pas hésiter à aller faire des travaux. Quand vous allez faire des travaux sur votre bien, ça va manger donc votre revenu foncier de l'année. Mmh. Et s'il y en reste, en général il y en reste, si vous faites 50 ou 60 000 euros de travaux, vous allez passer 10 700 euros l'année où vous faites les travaux, et ensuite vous allez mettre 35 ou 40 000 euros en réserve de déficit, et cette réserve va venir vous manger vos revenus fonciers pendant 4, 5, 6 ans. Donc ça, alors, mais ça, bien sûr, il faut que votre bien nécessite des travaux.
Donc si on achète une passoire thermique. Là, on en revient à la passion de Marie.
Voilà. Alors, sur votre patrimoine existant, si vous devez faire des travaux, c'est bien, faites-les. Surtout, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de bien à faire sur le bien, de travaux à faire, pardon, sur le bien dont vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi réaliser une nouvelle opération avec beaucoup de travaux, puisque cette deuxième opération va pouvoir venir manger les revenus fonciers de votre première opération, puisque les revenus fonciers se cumulent, se fusionnent, donc le déficit d'une nouvelle opération va pouvoir venir manger les revenus fonciers de votre première opération, et là il faut doser les travaux suivant le besoin en déficit que vous avez sur une longue période, puisque vous avez, quand vous faites des travaux, vous avez 10 ans pour imputer vos travaux restants sur vos revenus fonciers, donc c'est aussi une très bonne solution.
Créer un déficit pour baisser la fiscalité, c'est intéressant, mais Marie, vous n'allez pas dire le contraire, gérer des travaux, c'est très chronophage.
C'est très chronophage, ouais. Mais de toute manière, c'est obligatoire maintenant, donc du coup, on fait d'une pierre deux coups, hein, et puis en plus de ça, non mais pour le coup, les propriétaires bailleurs, ça fait partie des obligations, au-delà de la fiscalité très lourde, ça fait partie de leurs nouvelles obligations, donc ils doivent rénover. En plus de ça, ils ont aussi la possibilité d'avoir des aides, ça on le rappelle, hein, MaPrimeRénov', quand ils ont reboosté, calibrer MaPrimeRénov', changer, parce que c'était un crédit d'impôt auparavant, donc on a modifié un peu tout ce qui était le crédit d'impôt de transition énergétique fut un temps et devenu MaPrimeRénov', qui est accessible aussi et aux copros et aux propriétaires bailleurs.
Et aux bailleurs.
C'est important de le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Stéphane, vous ne partirez pas sans nous avoir donné une troisième piste pour que nous agissions pour baisser la fiscalité de l'immobilier. Racontez-nous.
Alors, la troisième piste, c'est effectivement de changer de régime.
Je vais être très en colère, là.
Que vous êtes... Attention, on y vient. Je vais me faire tenser par Marie encore.
Alors, déroulez d'abord avant de faire tenser.
Oui, ça va. Donc, troisième solution, donc c'est de changer de régime. C'est-à-dire, vous êtes en location nue et vous allez pouvoir, effectivement, estimer que votre bien correspond aussi... Attention, il faut que votre bien corresponde à une location meublée. Donc, vous avez un studio, vous avez un T2, vous dites, je redonne 40%, 60% de mes loyers en impôts, SCG, prélèvements sociaux. Donc, je change de régime. Alors, à la faveur d'un changement de locataire, bien sûr. On ne peut pas, avec un locataire en place, lui dire, maintenant, c'est un bail meublé, etc. Ça ne fonctionne pas. Mais à la faveur d'un changement de locataire, vous meublez votre appartement et vous basculez en meublé. Et en meublé, bien sûr, à l'amortissement. Et l'amortissement du mobilier sur 5-7 ans et de l'immobilier sur de longues périodes, sur 30 ans, va vous annuler globalement votre fiscalité. Si vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt à déduire, ça vous annule votre fiscalité pour 10, 12 ans, 15 ans. Mmh. Si vous avez des intérêts d'emprunt en plus à déduire encore, alors ça peut vous annuler votre fiscalité en meublé à l'amortissement sur des périodes de 18, 20 ans avec le mécanisme des reports. Donc là aussi, c'est très intéressant. Mais il faut que le bien soit adapté au meublé. Attention, si vous avez un 3 pièces, un 4 pièces, ça ne fonctionne pas. Il y a un tout petit marché ou une maison, il y a un marché qui ne va pas forcément fonctionner. Donc, il faut que le bien, effectivement, soit adapté au meublé, que le marché ne soit pas saturé également en meublé, parce que on a eu souvent l'occasion de le dire avec Marie, il y a des marchés qui saturent en meublé. Le régime est tellement intéressant que tout le monde se met à faire du meublé, donc il faut vérifier la profondeur. Est-ce que ce marché-là, il y a encore de la place pour du meublé? Donc il faut vérifier tout ça.
Ouais, mais Stéphane, justement, quand on s'était interrogé aussi sur la profondeur de marché, la réalité, c'est qu'il y aura toujours une demande. Regardez Paris, qui est quand même inondé de meublé. Je ne parle même pas du meublé saisonnier, hein. Je ne parle même pas du meublé touristique. Hein. Il est inondé de meublé parce qu'effectivement, il y a des avantages tournant et trébuchant pour les propriétaires bailleurs. Le fait est qu'il y a plein de locataires qui ne cherchent pas de meublé, mais qui, faute d'avoir le choix, vont finalement opter pour le meublé. Et puis tant pis si je me paye le garde-meuble pour garder mes trucs. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, même si ça ne répond pas à la demande, le problème aujourd'hui, la crise du logement, elle est telle. Alors, quelque part, c'est un bon tip pour les propriétaires bailleurs qui nous écoutent. C'est-à-dire, faites du meublé dans les villes tendues, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour le prendre. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'intérêt général derrière pour les locataires aussi, hein?
Alors après, on pourrait se dire aussi qu'il faut aligner et harmoniser la location nue et la location meublée. Pourquoi tout le monde va vers le meublé? Parce que qui veut moins de souplesse et plus d'impôts?
Exactement.
Donc voilà.
Le sujet,
donc c'est
il
pas
est aussi dans le fiscal, on en revient.
Le sujet, il est effectivement aussi que les loyers nus sont tellement taxés que, effectivement, l'ensemble des bailleurs ont cette tendance à vouloir se tourner vers le meublé. Alors une autre astuce aussi, on va voir qu'il y a aussi des gros problèmes, mais une autre piste pour ceux qui effectivement ont par exemple un bien qui n'est pas adapté au meublé. Si vous avez un 3 pièces, un 4 pièces, il n'y a pas de marché pour le meublé, etc. Vous pouvez aussi basculer à l'impôt société.
C'est-à-dire
choisir effectivement de sortir des revenus fonciers et d'aller à l'impôt société. Si vous avez une SCI, vous la basculez à l'IS, ce qu'on appelle la SCI, à l'IS. Et à ce moment-là, comme en meublé, vous amortissez. Et là, de la même façon, vous annulez votre impôt sur des longues périodes. Mais attention à l'impôt société, on est en régime donc société, donc on a une plus-value société. Donc, pour dire les choses clairement, on est massacré à la plus-value lorsqu'on veut vendre ce bien.
Il faut être sûr de ne jamais vouloir. Et on ne peut pas changer en cours de route juste avant la revente.
Ce serait trop facile. Donc il faut être sûr de jamais revendre, mais il y a deux choses de sûres dans la vie, la mort et les impôts, comme disait Benjamin Franklin. Donc parfois les gens me disent, moi si j'avais gardé tous les biens dont je me suis dit celui-là je ne le revendrai jamais, je serais beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il se passe toujours des choses qui n'étaient pas prévues, donc attention à ça. Donc c'est intéressant, alors si on est sûr de jamais revendre, il faut aussi faire attention de ne pas avoir d'enfants, parce que si vous êtes sûr de vendre, vos enfants 9 fois sur 10 ils vont vendre pour s'acheter leur résidence principale ou monter une affaire ou que sais-je. Donc la SCI à l'IS, c'est bien si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'aimez pas vos enfants. Si vous voulez, en quelque sorte, les déshériter au profit de l'État. Donc ça, ça fonctionne. Donc la SCI à l'IS, si on n'a pas d'enfants ou si on veut les déshériter au profit de l'État, c'est pas mal.
Voilà, Stéphane Descartier qui vous aide à agir sur la fiscalité de vos loyers dans tous les cas. Vous aimez vos enfants, et bien vous transférez votre loyer à vos enfants avec une donation temporaire d'usufruit. Vous ne les aimez pas, mais vous voulez aussi alléger votre fiscalité. Vous basculez en SCI soumis à l'IS, très sérieusement. Non, voilà, mais c'est important de réfléchir à ces moyens, parce que quand on passe du temps sur la fiscalité, on trouve des solutions.
Ouais.
On n'a pas tous un Stéphane Descartier.
Et d'ailleurs, juste, je profite que Stéphane soit là, il revient à la fin du mois de mai, donc dans un petit mois, et on vous prépare un vendredi juste avant la deadline pour les déclats d'impôts, où justement, on va essayer de faire le tour de toutes les questions qu'on peut se poser à l'aube de la...
Un spécial fiscalité, on va s'éclater encore.
Sexy. Non, avec Stéphane Descartier, on arrive à rendre ça super accessible.
On essaye d'expliquer simplement des choses qui sont très compliquées, en fait.
Et on sera avec Guillaume Erard du Figaro, donc ça sera forcément passionnant.
On s'occupe de vos impôts dans Tout pour investir. L'équipe est mobilisée pour rendre cette période fiscale un peu moins ennuyeuse et surtout vous aider à mieux gérer votre argent, parce que payer des impôts, c'est important pour faire tourner notre pays, mais payer la juste dose, c'est mieux. Nicolas Dose vous dirait la même chose d'ailleurs au quotidien. Je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM. Les bons plans de Stéphane Descartier sur agir sur vos loyers.